Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
La pensée des peuples vous accueille dans un souffle d'amour sur Erdiwa 107.5. L'amour qui unit les êtres, l'amour qui détruit et l'amour qui reconstruit. J'ai envie de te tenir, te parler, t'entourer de mes bras, te couvrir et te brûler de mes caresses. Te voir pâlir et rougir sous mes baisers, te sentir frissonner de mes embrasements. C'est la vie pleine, entière, vraie. C'est le rayon de soleil, c'est le rayon du paradis. Ô mon ange, que tu es belle, viens que ma bouche pose et cueille sur la tienne ce mot qui est le plus doux des baisers. Je t'aime. Victor Hugo. Amour solitaire. Les yeux embués de larmes, j'ai relu plusieurs fois ton message. Pourtant, je n'ai pu retenir que la partie où tu me disais ne pas être prêt. Ne plus être prêt. C'est ironique, tu ne trouves pas? Quand on sait que tu as passé des années à me regarder. Courir après le fantasme de l'histoire d'amour dont je rêvais. Quand on sait que tu m'as attendu tout ce temps. Car contrairement à moi, tu as su dès la première seconde que cette histoire était la nôtre. Il ne faut pas m'en vouloir. On sait tous que dans les rêves, les visages sont flous. On dit souvent qu'un beau jour, on finit par ouvrir les yeux. J'ai arrêté de courir. Tu es celui dont j'ai toujours rêvé. Promets-moi qu'on n'est pas en train de se louper encore une fois. Pour dire je t'aime, les Indiens Yanomami en Amazonie disent « J'ai été contaminé par ton être. Une partie de toi y vit et y grandit. » Les âmes s'effleurent souvent, mais peu se rencontrent vraiment. Quand elles y parviennent, elles échangent la profondeur de leurs doutes, de leurs blessures, de leur lumière. Dans un instant d'amour suprême. John Joss. Pour comprendre un être, tu dois vivre en lui jusque dans ses rêves. Sagesse amérindienne.
T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle et qu'apparaisse en plein jour dans le ciel un milliard d'étoiles pour que je fasse un vœu sans que mon soleil se voile et qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Et j'aimerais me cacher sous tes paupières pour que tu puisses me voir quand tu fais tes prières. Et j'aimerais les casser, toutes ces lumières, celles qui t'empêchent de voir un peu plus clair. Mais je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ.
Les contes du Pacifique d'Henri Gougeot. L'épouse céleste. Il advint un jour que la princesse céleste Tango Tango, visitant la terre, aperçut dans un village paisible un homme de grande beauté, nommé Tawaki. Elle considéra un moment son corps vigoureux, sa chevelure luisante, son visage heureux et fier, et se sentit bientôt prise d'amour pour lui. Tawaki ne put la voir, elle n'était qu'une brume lumineuse et mouvante parmi les arbres. Mais elle le suivit jusqu'au soir, et dès qu'il se fut endormi sur sa couche, elle vint hanter délicieusement son sommeil. Elle fit ainsi toutes les nuits, un an durant. Avant l'aube, elle retournait au ciel, et Tawaki, tous les matins, se réveillait seul, magnifiquement comblé et pourtant mélancolique, comme un amant délaissé. Il devint peu à peu le plus rêveur des hommes et perdit le goût des joies simples. Or, au bout de cette étrange année, Tango Tango sentit un enfant bouger dans son ventre. Elle en fut tant heureuse qu'elle décida de le mettre au monde sur terre, dans la maison de l'homme qu'elle aimait. Une nuit, elle prit donc l'apparence d'une femme, belle et véritable. Et quand l'aube vint, elle ne quitta pas la couche de Tawaki. Dès qu'il s'éveilla et la vit, elle posa la main sur sa bouche. À voix basse, elle lui révéla qui elle était. Tawaki reconnut en elle la merveille de ses rêves. Elle avait l'esprit vif et le goût du bonheur. Le soir même, il l'épousa. Ils eurent une petite fille. Son père, devant cet être neuf, fragile et turbulent, se trouva fort empêtré, comme le sont d'ordinaire les hommes avec les nourrissons. Un matin, tandis qu'il la tenait maladroitement dans ses bras, elle faisait pipi sur lui. Il la tendit à sa mère, la bouche tordue par une grimace de dégoût. « Débarrasse-moi donc de cette petite chose aussi laide que puante, lui dit-il. » Tango Tango serra sa fille contre elle, baissa la tête et murmura, les larmes aux yeux. « Ne l'aimes-tu pas ?» Tawaki ne répondit pas. Il s'était déjà détourné et sortait au grand soleil où l'attendaient ses compagnons. Alors elle se sentit tout à coup délaissée et si perdue sur la terre des hommes qu'elle remonta dans son pays céleste avec son enfant. Tawaki, rentrant chez lui le soir venu et s'y retrouvant seul, tomba à genoux sur sa couche, accablé de remords et de chagrin. Les jours passèrent. Il resta inconsolable. Après un mois, l'absence de Tango Tango avait creusé de telles rides sur son front et tant désespéré son regard que son frère cadet lui dit « Tu ne tarderas pas à mourir si tu restes comme je te vois. Grimpons au ciel et ramenons ta femme parmi nous. » Comme ils ne savaient comment se rendre au royaume des dieux et des déesses, ils s'en furent d'abord demander conseil à leur grand-mère, Matake Repo, qui vivait dans une caverne, sur une montagne aride et battue par les vents. Elle était aveugle, ridée comme une noix, et son corps décharné n'était vêtu de rien, sauf de toiles d'araignée. Ils la trouvèrent au seuil de son abri, occupée à trier des racines de tarot du bout de ses doigts noueux. Tawaki s'approcha d'elle sur la pointe des pieds et lui prit une de ses racines d'un coup de main vif. Tawaki lança à nouveau sa main preste et lui vola une autre racine. Elle gronda, palpa le sol et ne trouva autour d'elle
que des cailloux et de la poussière. Le point silencieux de Tawaki se ferma sur une troisième racine. Grand-mère Matakirepo, prise de colère, se souleva, sortit un long sabre rouillé de sous ses fesses et le fit tournoyer au-dessus de sa tête, en hurlant des malédictions. Tawaki et son frère courbèrent le dos, la lame sifflante effleura leurs cheveux. Grand-mère Matakirepo soupira, grogna et se rassit sur son arme. Alors Tawaki se dressa et d'un coup de poing lui écrasa le nez. Sans plus bouger d'un roc, elle éclata de rire, les yeux soudain vivants. « Qui donc vient de me rendre la vue ? » dit-elle, extasiée. Elle reconnut ses deux petits-fils et leur ouvrit les bras en pleurant de joie. Ils s'embrassèrent longuement, après quoi Tawaki interrogea la vieille femme. « Nous voulons grimper au ciel, lui dit-il. Comment faire ?» Elle lui répondit, « C'est très difficile. Les vivants d'en haut cultivent dans leur royaume une vigne dont les sarments et les vrilles pendent sur le sommet de la falaise, au-dessus de cette caverne. Le seul moyen d'aller au ciel est de se hisser le long de ces vrilles. » Les deux hommes escaladèrent donc la montagne jusqu'à la cime, et là virent les longs rameaux célestes. Ils semblaient suspendus aux nuages et se balançaient au vent. Le frère de Tawaki voulut le premier grimper, il était agile. Tawaki, la tête levée, le vit bientôt tout menu dans les nuées, et furieusement malmené par les tourbillons tempétueux qui agitaient au-dessus du monde les lianes feuillues où il s'agrippait. Il lui cria de descendre, le voyant presque emporté comme une paille dans la bourrasque. Le jeune fou se laissa glisser de feuille en branche et tomba près de lui, tout tremblant et essoufflé. « Retourne chez nous, lui dit son aîné. Et si je ne reviens pas, prends soin de notre héritage. » Dès qu'il fut seul, Tawaki chercha longuement le plus solide parmi les rameaux qui pendaient devant lui. Il en trouva un tendu comme une corde d'arc. Il était doublement enraciné dans le ciel et la terre. Il l'empoigna et patiemment s'éleva. Il grimpa tout le jour, sans un instant faire halte ni regarder derrière lui. Le soir venu, il parvint au bord du royaume d'en haut. Il s'y coucha et dormit toute une nuit céleste. Au matin, il se vit dans une vaste plaine. À l'horizon de cette plaine était une ville aux murailles éblouissantes. Il s'y rendit. Dans la première ruelle du faubourg, il ramassa des haillons de vieux mendiants dans la poussière et s'en vêtit. Ainsi déguisé, il se mit en chemin vers le palais de Tango Tango, son épouse. Il le découvrit au cœur de la cité. Il était aussi blanc que le soleil et entouré de jardins foisonnants d'oiseaux. À la haute porte de ce palais, il cogna du poing. Les serviteurs qui lui ouvrirent s'effrayèrent de son allure grotesque et de ses vêtements puants, mais acceptèrent par pitié, pour sa misère, de lui confier leurs tâches les plus rudes. Il devint ainsi l'esclave des esclaves. Il n'en fut pas abattu, il n'était pas homme à se laisser submerger par l'adversité. Les travaux qu'on lui confia furent accomplis avec une perfection si visible qu'un jour Tango Tango, soupçonnant quelque mystère, le fit appeler dans le jardin où elle jouait avec sa fille. Alors Tawaki abandonna son déguisement. Dès que l'enfant le vit s'avancer parmi les arbres, elle courut à lui les bras ouverts. Il la prit contre sa poitrine et vint vers son épouse. Un long moment, ils se regardèrent sans rien dire, puis se sourirent et s'étreignirent enfin, comme deux amants éperdus de tendresse, longtemps inassouvis. « Tu as gagné le ciel, lui dit Tango Tango, ne le perds plus, reste avec nous. » Tawaki répondit, « Je veux être où sont mon épouse et ma fille. » Il demeura au ciel, où il devint l'esprit du tonnerre et de la foudre. Jacqueline Risset. D'où vient la mystérieuse, la folle douleur d'amour? Je me réveille ce matin, tout entourée de la douleur de toi, de toi, comme une irritation, dans la peau du monde où tu es. Et si je me demande comment la faire cesser, je sais, il faut que s'éteigne ce point, qu'il cesse de battre comme une dent quand le reste se tait. Tissu du monde en un point transparent, tout souffre ici, tout regarde ce point, que la douleur éclaire. Je rêve l'oubli complet, paroi sourde, mur blanc, mais tout est écrit, par ici dessiné, tout parsemé de signes, de toi, par moi, fait pour te voir partout, et maintenant j'étouffe, j'ai mal, je voudrais dormir.
Très chère Ali, je n'ai pas pu fermer l'œil parce que je sais que tout est fini entre nous. Je ne suis plus amère, car je sais que ce que nous avons vécu était vrai. Et si un jour nous nous rencontrons dans nos nouvelles vies, je te sourirai sincèrement, en me rappelant l'été que nous avons passé sous les arbres, apprenant à nous connaître en étant amoureux l'un de l'autre. Le plus bel amour est celui qui éveille l'âme et nous fait nous surpasser. Celui qui enflamme notre cœur et apaise nos esprits. C'est ce que tu m'as apporté. Et c'est ce que j'espérais pouvoir t'apporter pour toujours.
Si tu savais marcher avec moi dans l'oubli, si tu savais m'étreindre comme un enfant la nuit, si tu prenais ma main lorsque pleurent mes yeux, peut-être que nous serions heureux. Si tu savais danser sur les lignes du temps, si tu brisais mes peines quand faiblit le printemps, si tu pouvais comprendre que je suis amoureux, peut-être que nous serions heureux. Si des roses dans le ciel s'envolaient chaque soir, quand nos paroles s'éteignent dans le noir, si nos bouches silencieuses s'ouvraient comme un feu, peut-être que nous serions heureux.
Si tu chantais tout haut que nos destins sont liés, si tu m'offrais ces vers pour me dire qui tu es, si tu brisais l'enfer, si tu croyais aux cieux, peut-être que nous serions heureux. Si tu voyais demain comme un sourire qui vient, que tu lisais mon chagrin dans le creux de mes mains, si tu pouvais comprendre que je suis amoureuse, peut-être que nous serions heureux.
Si des roses dans le ciel s'envolaient chaque soir, quand nos paroles s'éteignent dans le noir, si nos bouches silencieuses s'ouvraient comme un feu, peut-être que nous serions heureux.
Si je pouvais te dire le pourquoi de mon cœur, qu'avec toi je veux vivre et partir dans l'ailleurs, si je pouvais t'aimer, le montrer un peu mieux, peut-être que nous serions heureux.
Oui, je voudrais te dire le pourquoi de mon cœur. Je veux vivre avec toi et filer dans l'ailleurs. Si je savais te dire que je suis amoureuse, peut-être que nous serions heureux. Si des roses dans le ciel s'envolaient chaque soir, quand nos paroles s'éteignent dans le noir, si nos bouches silencieuses s'ouvraient comme un feu, peut-être que nous serions heureux. Peut-être que nous serions heureux. Peut-être que nous serions heureux.
Ondine de René Vivien. Ton rire est clair, ta caresse est profonde. Tes froids baisers aiment le mal qu'ils font. Tes yeux sont bleus, comme un lotus sur l'onde. Et les lys d'eau sont moins purs que ton front. Ta forme fuit, ta démarche est fluide. Et tes cheveux sont de légers réseaux. Ta voix ruisselle ainsi qu'un flot perfide. Tes souples bras sont pareils aux roseaux. Aux longs roseaux des fleuves, dont l'étreinte enlace, étouffe, étrangle savamment, au fond des flots, une agonie éteinte, dans un nocturne évanouissement.
Ami, prends ma lanterne, car j'ai perdu ma flamme. Mon amour est parti, elle a jeté mon âme. À bout faire au néant, me laissant le cœur vide. Elle a fait des fertiles, des averses larides. Et l'horreur du monde n'est rien comparaison à ce que l'amour fait à ceux qui dans l'union pensent oublier un peu qu'on est triste ici-bas. Et qu'ici, solitude est le dernier repas. Elle avait les yeux noirs, desquels on voit du bleu. On prend pour l'océan dans lesquels on voit Dieu. Qui font toucher du bout des doigts les horizons. Et toujours à la fin on est seul au milieu. Des vagues de sanglots et du sel dans la gorge. Et du sel sur la plaie de ce cœur tatoué. À son nom que l'on crie au fond des verres de vin. À se dire que la vie, oui, n'était qu'une putain. Ami, regarde-moi, j'ai le cœur qui renverse. La mémoire de ses yeux qui me colle à la peau. Et dans les bars du port, je cherche magie noire pour délivrer mon corps du sort qu'on m'a jeté. Et le sourire des filles, non, ne me fait plus rien. Et je commence à croire que les hommes qui ont pris d'autres hommes pour amour ont réglé la question. Après tout, dis-moi qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous, si ce n'est cette force qui fait qu'elles vous oublient. Cette horreur au fond d'elle ou à ce monstre qui crie. Quand elles vous font l'amour, tu sais qu'elles n'oublient pas. Qu'il n'y a qu'à la nature qu'elles ne tiennent parole. À tous ceux dans leurs bras qui sont faits prisonniers, j'ai l'âme solidaire et puis ma sympathie. À ces fous qui comme moi finiront pas la nuit. Je vous le dis, putain, putain, vous m'aurez plu. Joli sourire au parfum de leurs fleurs. Marguerite ou tulipe et de rose à lilas. Tu sais, l'ami pour moi, elles ont tout ici-bas. Quand elles vous montrent au ciel, qu'elles vous disent qu'elles vous aiment. Elles ont toutes pour moi l'odeur des chrysanthèmes. Adieu les gentils, adieu les gens pleurs. Adieu les maudits qui ont pris ma lueur. Qui ont jeté dans le noir mes yeux et puis les tiens. Contre le chant du cygne et les beautés qu'elles. J'en peux plus de ces jeux qui nous tuent. J'en ai marre de ce cœur, mon Dieu, qui ne va plus. Et qui toujours s'incline aux pieds de fausses blondes. Qui nous mène à la cime, qui nous traîne à la tombe.
Conte très merveilleux de Praline Gay Para. Poisson, mon amour. Un pêcheur et sa femme vivaient en haut d'un morne, avec leurs deux enfants. Une fille, Totote, et un garçon, Zéphirin. Si Totote était un peu sotte, Zéphirin, lui, était un petit garçon très malin. Un jour, il a plu si fort, il a plu si longtemps, que l'eau est montée. Elle a charrié tout sur son passage. Il a tant et tant plu ce jour-là, que partout dans le pays, les rivières, les ruisseaux, et même la mer avaient la couleur rouge de la terre. Quand la pluie s'est arrêtée au petit matin, la mère de Totote et Zéphirin s'est levée. Elle a réveillé ses enfants, elle leur a préparé un café léger et du pain. Et quand ils ont fini de manger, elle a donné à chacun une calebasse et leur a dit « Allez me chercher de l'eau claire, et gare à vous si l'eau est mêlée de terre. » Les enfants prennent le chemin des mornes. Ils montent, jusqu'à la source. Ils cherchent un endroit où l'eau est claire, mais en vain. Ils finissent par remplir les calebasses du mieux qu'ils peuvent, puis redescendent chez eux. Ils posent les calebasses sur la table de la cuisine et vont jouer dehors. La mère regarde dans les calebasses et voit tout au fond des traces de terre rouge. Elle se rue sur ses enfants et fait tomber sur leur dos une pluie de coups. Ils vont se coucher sans manger ce soir-là. Le lendemain matin, la mère réveille ses enfants, leur colle une calebasse dans les mains. « Allez me chercher de l'eau claire, et gare à vous si l'eau est mêlée de terre. » Zéphirin remonte vers la source. Totote hésite sur le chemin à prendre. Elle réfléchit. « De toute manière, je vais prendre des coups, autant aller jouer au bord de la mer. » Elle prend le chemin qui descend vers la plage, pose sa calebasse, et à l'endroit où l'eau de la mer se mêle au sable pour être si douce aux pieds, Totote se met à chanter et à sautiller. Soudain, l'eau de la mer se met à frémir, à bouillonner, et une vague légèrement plus grosse que les autres s'étale jusqu'au milieu de la plage. Quand la vague se retire, elle laisse sur le sable mouillé un grand poisson qui a dans ses écailles tous les bleus du ciel et de la mer. Et là-bas, ce n'est pas rien. Le poisson lève les yeux vers Totote et dit « C'est toi qui as une si belle voix, que cherches-tu par ici ?»« De l'eau claire pour ma mère. »« De l'eau claire ? Je sais où en trouver. » Mais viens d'abord t'asseoir près de moi. Je m'appelle la Bleue. » Totote relève son jupon et s'assied dans le sable mouillé. Elle prend le poisson dans ses bras et ils échangent des caresses, des baisers salés, des baisers mouillés et des douceurs. Quand ils ont fini les tendresses, la Bleue prend la calebasse dans sa bouche et plonge tout au fond de l'océan. Il revient quelques minutes plus tard avec de l'eau claire comme du cristal. Il dit « Totote, tu es une fille très aimable. « Chaque fois que tu auras besoin de moi, viens ici et chante. La bleue, viens pour mes caresses. La bleue, viens pour mes baisers tendresse. Je viendrai et je te donnerai tout ce que tu voudras. N'en dis mot à personne, c'est un secret entre toi et moi. » La bleue plonge dans les vagues et disparaît dans l'océan. Totote est heureuse. Elle rentre chez elle et arrive en même temps que Zéphirin. Ils posent les calebasses sur la table de la cuisine et quand la mère regarde ce qu'ils ont apporté, une pluie de coups s'abat sur le dos des reins de Zéphirin. Totote ne reçoit pas de coups, non. Sa mère lui donne une pomme cannelle pour la récompenser. Dans son lit, Zéphirin susurre entre les dents. « Tu verras ce que tu verras, Totote. » Le lendemain matin, la mère réveille ses enfants et leur donne une calebasse chacun. Au moment où Totote prend le chemin de la plage, Zéphirin lui dit « Serette, emmène-moi avec toi. Non, tu es trop petit et ce que je fais ne te regarde pas. Je t'en prie, Serette, je fermerai les yeux. » Elle hésite puis elle lui demande « J'ai une idée. » « Dis-moi, Zéphirin, tu vois mieux ce qui se passe autour de toi quand tu es sous une bassine de fer ou quand tu es sous un panier en osier ?» Et Zéphirin réfléchit et dit « Sous une bassine, je vois tout, mais sous un panier, je ne peux rien voir ni entendre. » Totote prend donc un panier en osier tressé, sa calebasse et dit à son frère « Allez, viens avec moi. » Arrivée sur la plage, Totote pose la calebasse dans le sable et demande à son petit frère de se mettre à quatre pattes. Et ensuite elle pose au-dessus de lui son panier retourné. Quand il est bien caché sous le panier, elle va à l'endroit où l'eau de la mer se mêle au sable, pour être si douce aux pieds, et elle se met à chanter. La bleue, viens pour mes caresses. La bleue, viens pour mes baisers tendresse. L'eau de la mer se met à frémir, à bouillonner, et une vague plus grosse que les autres s'étale jusqu'au milieu de la plage. Quand elle se retire, elle laisse sur le sable un grand poisson, qui a dans ses écailles tous les bleus du ciel et de la mer. Et là-bas, ce n'est pas rien. Totote remonte son jupon et s'assied. Elle prend le poisson dans ses bras Ils échangent des caresses, des baisers salés et des baisers mouillés, et des douceurs. Quand ils ont fini leur tendresse, la bleue prend la calebasse dans sa bouche et plonge au fond de l'océan. Il revint quelques minutes plus tard avec de l'eau claire dans laquelle se reflète le ciel et tous les nuages. Il la donne à Totote, plonge dans les flots et disparaît dans les vagues. Totote libère Zéphirin et en remontant vers la maison, elle lui demande « Dis-moi Zéphirin, tu as vu quelque chose ?»« Non, non, Sœurette, je n'ai rien vu. » « Tu as entendu quelque chose ?»« Non, non, Sœurette, je n'ai rien entendu. » Ils arrivent à la maison. Totote va dans la cuisine pour y poser sa calebasse. Zéphirin va immédiatement voir son père et sa mère pour leur dire « Totote est amoureuse d'un poisson. »« Ma fille, amoureuse d'un poisson ? Alors ça jamais, je le tuerai. » Le père et la mère appellent Totote et lui demandent d'aller chez sa marraine pour lui porter un panier d'avocats. Elle répond « Mais c'est à 3 mornes d'ici, je ne pourrai jamais aller et revenir avant la nuit. » « Tu obéis. » Elle obéit, elle prend le panier et se met à marcher. Elle marche, elle marche, elle marche. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Totote est à peine partie que son père aiguise déjà son sabre. La mère, elle, prépare le harpon et son panier. Zéphirin répare les filets. Ils descendent vers la plage et ils s'arrêtent là où Totote a chanté le matin même. Le petit garçon leur apprend la chanson. Et le père dit « C'est moi le pêcheur ici, c'est moi qui chanterai. » Le père chante de sa grosse voix écorchée. « la bleue, viens pour mes caresses, la bleue, viens pour mes baisers tendresse. » La mère ne frémit pas. « Ta voix est trop grosse, lui dit sa femme, c'est une voix douce comme la mienne qu'il faut. » Et de sa voix éraillée, elle se met à brailler. « la bleue, viens pour mes caresses, la bleue, viens pour mes baisers tendresse. » La mère est toujours aussi calme. « Tu es une voix de crécelle, dit Zéphirin. Cette chanson, c'est moi qui l'ai entendue. C'est moi qui la chanterai. » De sa voix d'enfant, il chante. « la bleue, viens pour mes caresses. La bleue, viens pour mes baisers tendresse. » L'eau de la mer se met à frémir, à bouillonner, et une vague plus grosse que les autres arrive au milieu de la plage. Quand elle se retire, elle laisse sur le sable mouillé un grand poisson qui a dans ses écailles tous les bleus du ciel et de la mer. Et là-bas, ce n'est pas rien. En moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, le père abat son sabre sur le poisson. Il le coupe en tranches que la mère lave dans l'eau salée, avant de les mettre dans son panier. Elle jette dans les vagues la queue de la bleue, où il n'y a rien à manger. La mère se teinte de rouge sang. Seule la queue de la bleue a échappé au carnage, elle disparaît dans les vagues. Dans les mornes, Totote continue de marcher. Elle arrive enfin chez sa marraine. Mais la porte est fermée. Elle pose le panier d'avocats sur la galerie et revient sur ses pas. Elle marche beaucoup, elle marche longtemps. Elle marche tant et tant qu'elle finit par arriver. Il fait nuit noire. Elle fait un détour par la plage et là elle sent son cœur se serrer. Elle remonte vers la maison. Ils sont tous à table. Ils mangent un court bouillon de poisson qui sent si bon. Totote se met à table. Sa mère la serre. Mais chaque fois qu'elle porte un morceau à sa bouche, il retombe tout seul dans l'assiette. Elle se sent toute triste. Elle sait qu'il s'est passé quelque chose pendant son absence. Cette nuit-là, Totote se couche le cœur lourd et ne réussit à s'endormir que très tard. Au petit matin, elle se lève avant tout le monde et descend vers la plage. Elle va là où l'eau de la mer se mêle au sable pour être si douce aux pieds et elle se met à chanter. La bleue, viens pour mes caresses. La bleue, viens pour mes baisers tendresse. » L'eau est rouge sang et une petite vague jette sur la plage la queue de la bleue. Totote comprend, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps, toutes les larmes de son cœur, et plus elle pleure, plus elle s'enfonce dans le sol. D'abord ses pieds, puis ses chevilles, puis ses genoux. Elle s'enfonce petit à petit jusqu'à la taille, jusqu'au cou, jusqu'au front. Totote a tant et tant pleuré que son corps a disparu sous le sable. Il ne reste d'elle que ses longues nattes, et de ses nattes se met à pousser un arbuste aux feuilles vertes et dentelées, qui sont si parfumées, et dans les feuilles apparaissent les fruits rouges comme le sang, brûlant comme l'amour. C'est les premiers piments.
Je te promets des nuits rouges comme tes rêves, des heures incandescentes. incandescente et des minutes blanches, des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets des bras pour porter tes angoisses, je te promets mes mains pour que tu les embrasses, je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir, je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres, si tu m'aimes à y croire encore.
Ne fuis pas encore, de Marceline Desbordes Valmore. Tu crois qu'il fait sombre qu'on ne te voit pas, non plus qu'une autre ombre glissant sur tes pas. Mais l'air est sonore et ton pied bondit. Ne fuis pas encore, je n'ai pas tout dit. À qui ce gant rose qui n'est pas le mien? Quel parfum t'arrose qui n'est plus le tien? Tu ris, mais prends garde, ta lèvre pâlit. Moi je te regarde, je n'ai pas tout dit. Sur ton cœur caché, des fleurs vont mourir. Les as-tu cherchées pour me les offrir? Vois, la lune est claire, l'enclos interdit. Paix à ta colère, je n'ai pas tout dit. Sous la noble allée qui s'ouvre pour toi, la pauvre voilée, ingrat, c'était moi. Sans cri, sans prière, sans voix qui maudit, je fuis la première. Adieu, j'ai tout dit.
Sur Erdiwa, laissons-nous emporter par ce tourbillon qu'est l'amour.